Il ne déteste pas la vie, il ne souhaite plus la mort, il voudrait seulement ne pas être né.
Je crois qu'on pourrait dire qu'il détestait l'humanité en général et qu'il aimait ses amis. Je me rappelle que je lui avais dit un jour, votre situation est tout de même un peu difficile, voilà que vous êtes poursuivi par la fortune et que la gloire vous menace. Et il m'avait répondu, heureusement, j'ai un ulcère à l'estomac.
Prénom ?
Émile.
Nom ?
Sioran.
Date de naissance ?
Le 8 avril 1911, dans un village de Transylvanie, alors hongroise. Ce village, Racinari, est resté pour lui le paradis de l'enfance. Son père en était le pop.
Des études secondaires ?
À 10 ans, première rupture existentielle, il est arraché au village pour aller faire ses études au lycée de Sibiu, où il obtient le bac en 1928.
Et ses études supérieures ?
En 1937, il éprouve un grand bonheur quand il obtient une bourse qui sera longtemps renouvelée pour aller préparer à Paris une thèse improbable. Il dira moins qu'il en avait obtenu une auparavant pour l'Allemagne de Hitler en 1933-1935. Donc il aime la France, qu'il parcourt en vélo, Paris, où il s'établit, et le français, qu'il adopte en 1947 comme langue de son écriture.
Un mariage ?
Bon, il ne faut pas compter sur lui pour parler de Simone Bouet, épousée en 1942, agrégée d'anglais, personnalité remarquable, qui fera vivre le ménage, installée dans un appartement assez modeste et mansardé pour passer pour un ermitage, mais en plein centre de Paris.
Quelles sont ses œuvres principales ?
Alors, des textes souvent brefs, grand style, mais pas vieille France. Son précis de décomposition marque l'année 1949. La tentation d'exister, la chute dans le temps, l'inconvénient d'être né, trouvent ensuite leur chemin. Il prétend avoir de moins en moins de lecteurs ou bien des lecteurs déclassés. Néanmoins, dans les années 1980, François Mitterrand l'aime beaucoup.
Retour en Roumanie.
Au grand jamais, c'est plutôt la Roumanie qui fait son retour après la chute du communisme. Les Roumains se souviennent de ses premiers livres dans leur langue et qui ne sont pas secondaires dans sa vie. Eh oui, il a été fasciste, pour ne pas dire davantage. J'ai horreur des jeunes, ça me fait me souvenir de ce que j'étais à leur âge. Il va finir par cesser d'écrire, son silence deviendra Alzheimer.
Et sa mort ?
1995, enterrement en grande pompe à l'église orthodoxe roumaine de Paris et publication, peu après, par Simone Bouet, de ses très beaux cahiers.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Nous n'allons pas continuer à parler en style de dictionnaire. Sioran ne craignait rien tant que cela. C'est creuser sa tombe, disait-il. Nos deux interlocuteurs ne vont pas tomber dans cet écueil. Le premier, c'est Stéphane Barsac, petit-fils d'un grand metteur en scène. Il a été de ces jeunes gens qui se sont éclairés au soleil noir de Sioran.
J'avais appris par une indiscrétion l'adresse de Sioran. Il vivait 21 rue de l'Odéon à Paris. Et donc, de temps en temps, alors que je préparais le baccalauréat et que j'avais découvert Sioran quelques années plus tôt, je prenais la rue de l'Odéon en me disant qu'un jour je rencontrerais Sioran, pourquoi pas devant le pub irlandais de l'époque. Et ce qui devait se passer s'est passé, à savoir qu'effectivement je l'ai rencontré. Et ça reste pour moi une rencontre ineffaçable. Parce que j'ai vu Sioran arriver de loin, donc j'ai quand même eu la conscience de le reconnaître. J'ai eu le temps de le prendre dans mes yeux. Lui m'a pris dans les siens et j'ai lu une terreur immense. Je pense que d'abord, il y avait chez lui un fond de fébrilité. C'était quelqu'un qui était quand même marqué par une expérience de la noirceur. Donc, quelqu'un qui le regardait, ça pouvait être inquiétant. Et puis, il y avait autre chose, je pense, mais ça, je l'ai compris bien plus tard. À savoir que il pouvait penser que j'étais un agent de la sécurité roumaine, par exemple. Il pouvait penser que j'étais quelqu'un qui venait pour éventuellement faire le coup de poing ou le menacer ou le racketter, allez savoir. Et donc, c'était pas un personnage neutre et il le savait très bien.
Notre deuxième témoin porte lui aussi un grand nom dans le théâtre, Banu. Georges Banu a quitté la Roumanie pour la France il y a 40 ans. Il est devenu notre meilleur écrivain de théâtre. Sioran n'aimait pas tous les Roumains de Paris. De même qu'il aurait pu écrire sur la porte de son cinquième étage « Je ne connais personne », il aurait aussi bien pu ouvrir la fenêtre et crier « Mon Dieu, pardonnez-leur, ils sont roumains ». En réalité, son accueil était généralement des plus courtois.
Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que les textes nous perturbent, mais l'homme nous console. Il avait un regard un peu bouffonne sur la vie. Il l'a répété souvent, mais sans doute par provocation, en disant « le Vidal ». Là, le livre avec tous les médicaments, c'est le livre le plus important du monde, parce qu'il était à la fois suicidaire et hypochondriaque.
Alors cet écartèlement vient aussi de la différence entre la vie de Cioran telle qu'il l'a vécue et le récit très construit qu'il en fait. Commençons par le premier épisode qui met en scène son village en Transylvanie qui, à sa naissance en 1911, appartient donc encore à l'Empire austro-hongrois. Il y vit tout le temps dehors, extrêmement libre.
La jeunesse a été importante pour lui. Donc c'est cette idée que c'est comme une icône avec un fond d'or et que sa vie se détache sur ce fond d'or et qu'il n'a eu de cesse que d'essayer de retrouver justement ses premières impressions, ses moments enfantins où il était confondu avec le monde. C'est d'une certaine manière la même expérience que fait Rimbaud. C'est-à-dire que l'enfance est ce moment où nous ne sommes pas démembrés par le langage, nous ne sommes pas dans la fragmentation du concept, nous sommes dans le rapport élémentaire aux choses et dans un rapport de communion, d'amour, de tendresse avec le monde. L'oiseau est notre frère. Et tous les animaux et tous les arbres.
Le paradis de l'enfance vit au fond de sa conscience, quoi.
Absolument.
Dans son récit, la première rupture existentielle, c'est le départ à 10 ans pour la ville de Sibiu, où il va passer le bac et demeurer plus longtemps encore. Une ville assez charmante, mais où il commence à faire l'expérience de son inconfort.
À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. J'ai toujours méprisé les gens qui peuvent dormir, n'est-ce pas? Mais c'est absurde. Parce que moi, je n'avais qu'un désir, c'est dormir. Je ne pouvais pas. Seulement, j'ai compris une chose, c'est que c'est les nuits blanches qui sont d'une importance capitale. Parce que, regardez, la vie était simple. Les gens passent la journée, le travail, ils sont fatigués. Ensuite, ils se couchent. Il se réveille et il commence une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. C'est un autre monde, un autre temps, puisqu'il y a la vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort pour un temps, non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Alors, à 8h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8h du soir, n'est-ce pas, la veille. Et toute la perspective sur les choses change nécessairement. Moi, je crois que si je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais été dupe de cette duperie, c'est aussi à cause de ça. Mais on a un autre sentiment du temps. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas.
Alors, d'une certaine manière, l'œuvre de Cioran, c'est l'heure arrêtée sur le cadran entre 3 et 4 heures du matin pour chacun de nous. Il y a une très bonne expression comme ça que reprend le cinéaste suédois Ingmar Bergman. Il appelle ça l'heure du loup. Donc c'est le moment effectivement où les monstres surgissent et où on peut être englouti justement par une vision sombre des choses, par une absence d'espoir, par le sentiment que la nuit se confond avec la faim. On peut faire cette expérience, je l'ai faite récemment, en étant dans une machine où on vous passe toutes sortes de j'ai oublié comment ça s'appelle.
Un scanner,
voilà. Vous êtes dans un caisson, comme si vous étiez un Égyptien dans un sarcophage, et vous dites que vous n'en sortirez jamais. Et puis là, tout à coup, il y a une terreur qui vous saisit. Chez Sioran, il y a effectivement cette expérience fondamentale de l'insomnie comme révélation de tous nos blocages. C'est-à-dire que le temps est arrêté, le temps n'avance pas. On aimerait que l'heure vienne, que le jour se fasse, et non. On est toujours au même point, on se retourne dans son lit, et finalement, le monde s'écroule. Et c'est là où, effectivement, on se pose la question de savoir ce qu'on fait. Pourquoi est-on là? Pourquoi, simplement, a-t-on une existence? Est-ce qu'elle a du sens?
Bucarest est tournée vers Paris, Sibiu et la Transylvanie peut-être davantage vers l'Allemagne que vers la France. En tout cas, la première bourse d'étudiants de Sioran, c'est pour Berlin. Et pas n'importe quand, au moment des débuts d'Hitler. Deux années maudites dont il préfère ne pas parler, en 33-35. En revanche, il est toujours disert sur son envoi à Paris en 1937 par l'Institut culturel français de Bucarest. Son directeur Alphonse Dupron va le protéger autant qu'il pourra. Sioran, en effet, passe davantage de temps en vélo à faire le tour des auberges de jeunesse que fixé sur son siège dans les bibliothèques. Et alors, répond Dupron, l'expérience de la France vaut tous les livres. En 1947, il décidera de ne plus écrire qu'en français, décision prise à Dieppe, où il achètera plus tard un petit appartement face au château qui lui rappelle sans doute celui de Sibiu. Et il répète sur le ton de dérision qui lui devient familier « J'étais en train de traduire Mallarmé en moldo-valaque et j'ai décidé de me passer du moldo-valaque ». Ça va lui demander un grand effort. Que de café et de tabac pour arriver à une phrase en français de forme à peu près parfaite.
Monsieur Lebrun, le premier livre de Sioran en France porte un titre d'un grand pessimisme, précis, de décomposition. Il obtient néanmoins un grand succès. L'auteur s'en voit certainement flatté puisqu'il accepte aussi bien les invitations dans Le Monde qu'un prix littéraire.
Rucujas, dit-il dans une vitrine de librairie, je suis attiré par un amoncellement d'ossements. Je m'apprête à détourner le regard quand, avec plaisir, je vois, au sommet du tas, mon précis de décomposition. Alors ce n'est que plus tard que le manège littéraire sur la place continuera de tourner sans lui et qu'il se demandera « À quoi bon tous ces livres ?» Un livre sans nécessité, c'est un livre qui aurait été meilleur s'il n'avait pas été écrit.
Pourquoi multiplier les livres? Pourquoi vouloir être à tout prix écrivain? Mais tout le monde écrit trop d'ailleurs. C'est le dame, pas contemporain, mais en fait depuis longtemps. C'est surproduction inutile, absurde. Tout le monde écrit, surtout à Paris. C'est pourquoi? Et moi-même, je pensais que je n'allais pas écrire, ou très peu. Mais, vous savez, on se laisse prendre. Et maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer cette comédie. Ce n'était pas une comédie, parce que c'était une sorte de nécessité, je dois dire. C'était une façon de me débarrasser de moi-même. Parce que, il faut dire que la seule façon de simplifier tout, c'est de s'exprimer. Parce que ça perd tout son mystère. Dès que vous avez écrit une chose, c'est fou. Vous avez tué la chose et vous-même. Donc ça remplit une fonction. Ça, sans doute, j'ai remarqué que les gens qui n'écrivent pas, ils ont plus de ressources que ceux qui écrivent. Parce qu'ils ont tout en eux. Le type qui écrit, c'est un type qui se vide. Et au bout d'une vie, c'est le néant. Et c'est pour ça que les écrivains sont si peu intéressants. Non, mais c'est vrai, je le pense profondément. Parce que ce sont des types vidés d'eux-mêmes. Il n'y a que les restes d'eux-mêmes qui subsistent encore. C'est des fantoches.
Et d'ailleurs, une fois que les auteurs se sont ainsi vidés, c'est au bénéfice de qui? Sioran a toujours eu le sentiment de tenir conversation avec des personnes aussi raté, incomplète que lui.
Le raté, c'est un type très doué qui ne se réalise pas, qui promet tout et qui ne tient pas. Or, mes grands amis en romanie, ce n'étaient pas du tout les écrivains ou tout ce que j'ai connu, c'est des ratés. Un type qui a eu une très grosse influence sur moi, mais énorme, on peut dire, c'est un type qui avait fait des études de théologie, qui devait être prêtre. Et le dimanche où il devait se marier, parce qu'il ne pouvait être prêtre que marié, il était sorti pour aller à l'église. Et chemin faisant, il dit, mais c'est une folie. Et il a disparu. Il a disparu pendant des mois. Et on l'avait attendu toute la journée devant l'église. C'est un type qui ne pouvait pas écrire, qui lisait très peu, mais qui était un immense connaisseur d'hommes, une sorte de psychologue inouï. Je n'ai jamais vu se tromper sur qui que ce soit. Et c'est pas seulement sur les hommes, sur le tout, il était d'une lucidité extraordinaire, criminelle, agressive, etc. Un des plus grands souvenirs que je garde de ma vie, c'était une rencontre, pas une rencontre parce que je le voyais souvent, c'était une nuit à Brasov. Nous sommes restés jusqu'à 5 heures du matin dans la rue. Eh bien, au bout de cette conversation, on était dans la rue, toute la nuit, j'ai eu le vertige. Parce qu'on avait tout détruit ensemble. Tout. Et lui, il était plus fort que moi, de loin. Mais tout. Et il m'a raconté un tas de choses, des secrets de sa vie. Et je ne veux pas dire que je lui dois beaucoup. Mais c'était quand même un interlocuteur très important pour moi. Parce que j'ai vu jusqu'où on peut aller. Lui, dans la négation, il était allé jusqu'à la limite. Pour moi, c'était un cas exaspéré de lucidité. C'est un cas exaspéré donc, et dangereux, au fond. Parce que la lucidité n'est pas nécessairement compatible avec la vie. Pas du tout, même. Mais pousser si loin, ça va au-delà du suicide. Vous comprenez, c'est vraiment le néant. C'est la conscience absolue du néant. Et ça, c'est pas compatible avec l'existence, il faut le dire. Alors, à ce moment-là, où on devient religieux, où on se suicide, où on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais c'est une extrémité à laquelle je dois dire, j'ai eu accès, n'est-ce pas, plusieurs fois de ma vie, enfin, pas plusieurs fois, assez souvent, mais jamais avec l'intensité de ce type.
Je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée ici même. Ça faisait un certain temps que je recevais les lettres délirantes d'une femme, « Il n'y a que vous au monde », etc., inouïe. Ces lettres n'étaient pas trop mal écrites, mais je me suis méfié, pas envie. Puis il a fallu lui répondre quand même. J'ai dit « Écoutez madame, je ne veux pas vous voir, mais je vous verrai un jour ». Elle écrivait comme moi des lettres fortes. Une après-midi, j'écoutais dans une espèce de cafard de la musique hongroise et des fados, et je suis tombé dans un état étrange. J'ai dit « Je veux voir cette femme ». Je lui téléphone aussitôt « Je veux vous voir tout de suite. Où habitez-vous ? À 10 km de Paris, mais je peux prendre un taxi. Alors venez tout de suite. J'arrive dans une heure. » J'étais dans un tel état que j'avais vraiment besoin que quelqu'un me dise « Vous êtes le plus grand, vous êtes... » C'était un moment de faiblesse, dans tous les sens du mot. À 8 heures, on sonne à la porte. Quand j'ouvre, j'éclate de rire. C'était une très, très vieille femme, 75 ans, une naine, pas plus grande que ça, complètement tordue, avec des lunettes de soleil noires. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Quelle ironie! J'étais plutôt embêté, et elle est restée là pendant 4 heures à parler. C'était extraordinaire. Elle m'a raconté toute sa vie. Elle m'a dit ce qu'elle n'avait jamais raconté à personne, même sa nuit de noces, tout. Des choses inouïes, énormes. C'était un être rejeté par la vie. Un monstre, mais pas une imbécile. Un soir, je me promenais avec un type et je lui ai dit « Les gens qui aiment mes livres sont les déchets de l'humanité. »
Il adorait le fado. Et je l'ai fait rire une fois. Il m'a dit « Ah, j'adore Amalia Rodriguez. » Et je lui ai dit « Ceausescu aussi. »
Sangue dos cães.
Intelligence, service. France Inter.
Alors, s'il est un rapprochement intéressant à faire, c'est celui entre Cioran, le Roumain, l'homme du jour pour nous, et Beckett, l'Irlandais d'origine. Ils ont tous deux choisi d'écrire en français. Ils sont exactement contemporains. Beckett, le seul véritablement noble d'entre eux, dira Cioran, est un tout petit peu plus âgé. Il mourra d'ailleurs curieusement le jour de l'exécution des Ceausescu. Ils sont tous deux des Français capitaux.
Ce sont deux exilés. Il y a un Irlandais, un Roumain. Deux hommes qui réinventent un rapport avec la langue française tout à fait inédit. Alors dans le cas de Beckett, qui est d'une certaine manière plus radical, parce que il pousse l'avant-garde aussi dans l'expression, ce qui n'est pas le cas de Cioran, qui lui justement est dans un classicisme, même si c'est un faux classicisme. Et tous les deux effectivement composent avec cette manière de quartz noir qui les habite. Et donc il était écrit d'une certaine manière qu'il serait appelé à se rencontrer. Cioran a dit à Beckett tout le bien qu'il pensait de son œuvre. À l'inverse, Beckett a dit qu'il se sentait bien dans les ruines de Cioran.
Beckett, dans cette phrase tellement énigmatique, a saisi quelque chose de très profond pour Cioran, c'est-à-dire la violence de la destruction, mais en même temps la poétique de la ruine. Cioran n'est pas l'homme des déchets, des débris, de la poubelle, comme ont été de bon nombre d'artistes modernes. C'est pas Beuys, c'est pas... Chez lui, il y a à la fois la dépression, l'angoisse, l'inquiétude, mais en même temps, la beauté du style. Le style rend l'état dont il parle noble. Et tout d'un coup, cette phrase de Beckett, « Je me sens bien dans vos ruines », me semble le diagnostic extraordinairement précis.
Et ils étaient beaux tous les deux.
Très très beaux. La beauté, c'est tout simplement le fond qui remonte à la surface. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il est beau, homme ou femme, marque parce qu'effectivement, sa vie intérieure affleure. Et qu'on la voit dans tous ses gestes, dans tous ses mouvements. Et dans le cas de Cioran, quand je l'ai vu, il était vieux, évidemment, mais sa vieillesse lui composait une beauté supplémentaire. Il y avait un passé, il y avait un vécu, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une vérité. D'une certaine manière, on était certain que ce qu'il écrivait n'était pas faux, que c'était attesté par son propre visage.
En choisissant le français, Cioran fait-il le choix d'une contrainte, Monsieur Lebrun ?
Pour poursuivre le parallèle avec Beckett, il avait repéré chez Beckett une certaine faiblesse. Et cette faiblesse, elle était contenue par l'usage du français. Eh bien, pareil pour Cioran, le français, il le choisit à la façon d'une digue qui le protégerait. De quoi ? De quels excès ? Georges Banu.
En roumain, les textes roumains sont des textes un peu volcaniques, où il est prisonnier de cette énergie, des emballements. Et ensuite, le français, ça lui a servi vraiment de garde-fou. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il aurait pu écrire en allemand. Et il préfère le français parce que il adopte ce qu'on peut appeler la loi de la contrainte. Le français, disait-il, le contraint à la précision.
Une lettre d'avril 1966 sur ce point au poète Armel Gern.
Il suffit d'une heure de retour à ma langue maternelle pour que cette acquisition récente qu'est au fond pour moi le français soit balayée. S'il s'agissait seulement d'une heure, mais non, ce sont des soirées entières. On me replonge de force dans un passé auquel je ne voulais plus songer. Mon drame est de savoir le français d'une façon trop consciente. Qu'est-ce qu'une langue dont tous les vocables vous sont extérieurs, dont aucun n'a pris racine en vous ? Tout était encore possible tant que j'étais coupé de mes origines, ce contact répété avec les mots de mon enfance, me fait positivement mal parce qu'il me tire en arrière. Je dois dire que j'avais prévu le désastre. si j'ai pu tout de même pondre 5 bouquins dans un idiome d'emprunt, c'est au rideau de fer que je le dois. Tant qu'il était baissé, et bien baissé, je savais comment m'orienter. Maintenant qu'il se lève, je ne sais plus où j'en suis. Je vais condamner ma porte. C'est le seul recours qui me reste.
Oui, si les Roumains étaient charitables, ils ne s'arrêteraient pas chez moi, dit-il. Avec Georges Banu, il parle ostensiblement français, mais avec Eugène Ionesco, le camarade d'études qui a partagé les mêmes bancs, comment faire ? « Prends garde, Eugène, lui dit-il, tu me fais parler en roumain, tu détruis ma syntaxe. » Ce n'est pas en roumain qu'on peut produire des maximes équivalentes à celles de La Rochefoucauld ou des aphorismes dignes de Joseph Joubert, parfaitement précis, sans faire grand genre, même quand ils viennent de la vie quotidienne.
Il y a une phrase où il dit « Juste devant moi, dans les combes de l'autre côté de la rue de l'Odéon, je vois un Américain qui tape à la machine jour et nuit. D'où lui vient la force de trouver ces mots ? » Et il y a une que j'aime beaucoup, il dit « Un vieux poète a décidé de prendre sa retraite. » Et il a dit à la femme « Je ne suis à la maison pour personne. » Et de temps en temps, sa femme sortait et sonnait à la porte. Je trouve que ça, c'est d'une tristesse presque hongroise que la femme qui fait croire à son mari qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, il n'y a personne. Et si on note ça comme un fait quotidien, comme ça.
Intelligence, service. France Inter.
De tous les arts, c'est à la musique que Cioran était le plus sensible. Musique sacrée, les chants orthodoxes, rien de plus sublime. Bach, Dieu lui doit beaucoup. Ici, c'était une rhapsodie roumaine de Enesco, le grand Enesco, le grand compositeur roumain du XXe siècle. Cioran disait n'être jamais revenu en Roumanie depuis 1937, son installation à Paris. La Roumanie, néanmoins, l'habitait. Il habitait encore la Roumanie.
Chaque fois que j'entrais dans son bureau, ce qui me frappait, c'est que, en plein cœur de Paris, à côté de la place de l'Odéon, il avait reconstituer une pièce qu'on aurait dit une cellule d'un monastère roumain. 3 tapis roumains, une nappe roumaine sur la table, tout était roumain. Et il m'a amené la seule fois où dans la pièce d'à côté. Et là, pour moi, c'est une sorte de diagramme de son identité. La pièce d'à côté, je n'ai jamais vu un chaos aussi terrible. Les livres jetés les uns au-dessus des autres, un bordel absolu.
En 1994, alors qu'il était dans l'établissement de santé dont il ne reviendrait pas, Simone Bouet, la femme de Cioran, a entrepris d'explorer ce chaos. C'était, dit-elle, un amoncellement de livres, de papiers, mais aussi d'objets disparates, et la pièce mansardée se prolongeait par une soupente à laquelle on accédait en rampant. Dans la soupente s'entassaient des cartons, des sacs, des valises, et l'une des valises contenait une grande enveloppe portant l'inscription « Mon pays ». Elle conservait un texte que Simone Bouet a daté de 1950 ou à peu près. Un texte qui dit tout du rapport de Cioran à la Roumanie. Il commence par l'évocation du pays de sa jeunesse. À la fin de la Première Guerre mondiale, les empires alentours s'étant effondrés, la Roumanie avait récupéré plusieurs de leurs territoires, dont la Transylvanie natale de Cioran. On a parlé de Grande Roumanie. Mais le pays n'avait pas les structures économiques, le personnel et les institutions politiques qui lui auraient permis d'assumer un grand destin. Premier extrait du texte de La valise de la soupente, Mon pays, 1950.
Il m'advint, bien avant la trentaine, de faire une passion pour mon pays. Une passion désespérée, agressive, sans issue, qui me tourmenta pendant des années. Mon pays. Je voulais à tout prix m'y accrocher et je n'avais pas à quoi. Je ne lui trouvais aucune réalité, ni dans le présent, ni dans le passé. Par rage, je lui attribuais un avenir, je le forgeais de toutes pièces, je l'embellissais sans y croire. Je le voulais puissant, démesuré et fou, comme une force méchante, une fatalité qui ferait trembler le monde, et il était petit. Modeste, sans aucun des attributs qui constituent un destin. Lorsque je me penchais sur mon passé, je n'y découvrais que servitude, résignation, humilité, et quand je me tournais vers son présent, j'y décelais les mêmes défauts, les uns déformés, les autres intacts.
Le roi Carole II, en Roumanie par exemple, inspire plus de haine qu'il ne fédère. Et un mouvement fasciste s'est formé, comme ailleurs en Europe, avec des traits cependant assez étonnants. Son chef, le capitaine, Cotreanu, est un homme jeune, qui, juché sur un cheval blanc, apparaît flanqué de son vieux père, en blouse paysanne. Les sabots du cheval dans la fange, le regard du capitaine tourné vers le ciel. Le mouvement est dirigé contre les plutocrates, les juifs, les bourgeois. Il prend plusieurs noms, garde de fer, légionnaire de Saint-Michel, tout pour mon pays. Cioran est attiré par le vocabulaire du sacrifice qui enveloppe Cotreanu.
Une espèce de mouvement se constitua vers ce temps-là, qui voulait tout réformer, même le passé. Je n'y crus sincèrement un seul instant. Mais ce mouvement était le seul indice que notre pays pût être autre chose qu'une fiction. Et ce fut un mouvement cruel, mélange de préhistoire et de prophétie, de mystique de la prière et du revolver, et que toutes les autorités persécutèrent, et qui cherchaient à être persécutées. Car il avait commis la faute inexpiable de concevoir un avenir à ceux qui n'en avaient pas. Tous les chefs en furent décapités, leurs cadavres furent jetés dans la rue. Ils eurent, eux, un destin. Ce qui dispensait le pays, lui, d'en avoir un. Ils rachetaient leur patrie par leur démence.
Que s'est-il passé? Que raconte ce texte? Cotreanu a été assassiné sur ordre du roi. Mais après le pacte germano-soviétique 39, la défaite de la France alliée traditionnelle de la Roumanie 40, Staline et Hitler ont dépecé le pays. Et le roi, humilié dans l'opinion, a dû fuir. Et c'est la garde de fer de feu, Cotreanu, et les forces de l'ordre du Conducator, le maréchal Antonescu, qui s'allient un moment pour créer un État national légionnaire, un cauchemar, une terreur. Les légionnaires ont assassiné par exemple des détenus par dizaines dans les prisons. Et c'est à ce moment de paroxysme que Cioran a cru bon de revenir à Bucarest, parce qu'il est bien revenu une fois après son installation à Paris. Entre novembre 40 et février 41, il a même fait un discours à la radio pour exalter ses camarades légionnaires et la clique au pouvoir à cet instant l'a nommé attaché culturel en France. Bon, il n'a occupé ce poste que peu de temps avant de revenir au style de vie étudiant qui était le sien, mais il s'était compromis. L'ami Ionesco a bien figuré cette époque dans sa pièce « Rhinocéros ». Les hommes, entraînés par un mouvement plus fort qu'eux, perdent leur aspect humain et prennent la forme animale, archaïque du rhinocéros.
Il faut toujours essayer de comprendre, car nous sommes des êtres pensants. Tout est logique.
Vous appelez ça logique, vous, naturel?
Moi, quoi de plus naturel que rhinocéros?
Ah oui, mais un homme qui devient un rhinocéros, c'est indiscutablement anormal.
Ah, indiscutablement, vous savez.
Oui, parfaitement, indiscutablement anormal, absolument anormal.
Vous me semblez bien sûr de vous. Peut-on savoir où s'arrête le normal? Où commence un normal? Vous pouvez définir ces notions, vous? Normalité? Anormalité?
J'ai tâché de retrouver le logicien.
Quel logicien?
Ben, un logicien, quoi. Un philosophe. Vous savez mieux quoi ce que c'est qu'un logicien?
Oui.
Bien, un logicien que j'ai rencontré, puis qui m'a tout expliqué.
Que vous a-t-il expliqué?
Que les rhinocéros asiatiques étaient africains et que les rhinocéros africains étaient asiatiques.
Je saisis difficilement.
Ah non, 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 mais il m'a prouvé le contraire. C'est que les Africains étaient asiatiques et que les Asiatiques... Oh, écoutez, vous expliquerez avec vous. C'est quelqu'un de très bien, quelqu'un dans votre genre. Un intellectuel, un subtil, érudit. Oh, les voilà encore. Les voilà encore. Ah non, non, moi, je peux plus y tenir. Salaud!
Je veux bien le connaître, votre logicien, s'il le fait m'expliquer ses points délicats et obscurs. Je ne demande pas mieux, ma foi.
Je vous l'amènerai, il vous parlera, vous verrez, c'est une personnalité distinguée. Salaud!
Laissez-les courir et soyez plus polis. On ne parle pas de la sorte à des créatures. Enfin, voyons, Béranger.
Oh! En revoilà! Un canotier empalé sur la tente d'un rhinocéros. C'est le canotier du logicien. Le canotier du logicien. Mille fois, merde, le logicien est devenu rhinocéros.
Ce n'est pas une raison pour être grossier.
Le logicien rhinocéros. Oh.
Non!
De la rhinocérite, les intellectuels ne sortent pas indemnes. Abusés par une folie, Cioran en sort désabusé. C'est ce qu'il dit dans le texte de La valise de la soupente en 1950.
Quant à moi, je devais perdre jusqu'au goût de jouer à la frénésie, à la convulsion, à la folie. Mes extravagances d'alors me semblèrent inconcevables. Je ne pouvais même pas m'imaginer mon passé. Et quand j'y songe maintenant, il me semble me rappeler les années d'un autre. Et c'est un autre que je renie. Tout moi-même est d'ailleurs à mille lieues de celui qu'il fut.
Question à Stéphane Barsac maintenant. Pourquoi ne pas avoir publié ce texte où il se désavoue dès sa rédaction en 1950?
Ça, c'est une vraie question que moi, je me suis posée d'ailleurs, parce que quand j'ai lu Cioran dans les années 80, il était assez bien porté, il faut le dire. Il était cité par tout le monde, il était même invité par François Mitterrand. C'était quelqu'un qui faisait de l'unanimité. Alors après aussi, une très longue période de silence et de retrait et un anonymat à peu près complet. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, effectivement, il aurait pu dire les choses en vérité et il ne l'a pas dit. Comme beaucoup de gens, moi je l'ai découvert après sa mort. En fait, j'ai découvert après l'avoir connu. Je ne savais pas de son vivant. N'étant pas roumanophone et n'ayant pas accès aux textes originaux. Alors je crois qu'il a voulu faire silence sur cette époque. Sans doute d'une part pour se protéger. Aussi, je pense, par un sentiment profond de honte. Il faut pas mésestimer ça. Je suis moi convaincu qu'il y a chez lui une prise de conscience et une rupture avec justement ce fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de nier, mais il y a une honte profonde. Je pense qu'il a estimé que ce qu'il avait écrit était une condamnation suffisante de tout son passé pour que son œuvre se suffise à elle-même. Et effectivement, si vous lisez Cioran en français, donc le deuxième Cioran, celui à partir des années 40, il est évident que c'est quelqu'un qui brise toute velléité d'extrémisme, et c'est ce qui fait sa force.
La honte, donc. La peur aussi. La police politique de la Roumanie, devenue communiste, connaît son dossier, qu'elle peut rendre public. La discrétion de Cioran s'explique aussi ainsi. Son frère Aurel, qui l'a attiré vers la garde de fer, a purgé une longue peine de prison. Il faut également veiller à la tranquillité de sa famille, rester sur place, à qui il envoie régulièrement des colis de vêtements. Reste de son imaginaire fasciste la certitude du déclin de l'Occident, pour reprendre le titre d'un livre de nouveau à la mode aujourd'hui, celui d'Oswald Spengler. Beaucoup plus pessimiste en fait que Spengler, Cioran disait que l'Occident en était arrivé à une anémie telle qu'il ne fallait prévoir que la diminution inéluctable de son intensité. Quant à la Roumanie, dans le paysage des grandes civilisations de Spengler, qu'était-elle d'autre qu'une culture interstitielle, un théâtre d'ombre? Sauf qu'en décembre 89, elle donne un étrange spectacle au monde. Les tyrans Ceausescu tombent comme des pantins au guignol, et le pays cherche aussitôt à rejoindre son histoire déchirée par le communisme. Et voilà qu'à Bucarest, on se souvient des premiers livres de Cioran, exaltés de nationalisme. Au début de 90, Georges Banu trouve notre homme occupé à une réédition en roumain qu'on lui demande d'un livre de 36 qu'on ne connaît alors pas en France, « Transfiguration de la Roumanie ».
Oui, ça c'est très émouvant. Ça, je suis allé chez lui, il m'a accueilli, et c'est comme sur la table de Tchekhov. Il n'y avait rien. Il y avait le livre avec des crayons, du rouge, du vert, du jaune, tout ça.
La première édition roumaine d'avant-guerre.
Voilà. Et il m'a dit, je corrige cet ouvrage qui me fait honte et qui me tient à cœur. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai acheté le livre, qui était un livre publié dans l'urgence à Bucarest. Et au-delà des textes qui étaient mouvants, c'est le fait que c'était un pays qui sortait de la misère absolue. Et qui a, sur les 200 pages de texte, il y a trois types de papier. Il y a du papier jaune, du papier blanc. C'est-à-dire, c'est une sorte de geste à l'égard de Cioran en publiant ce texte, qui est un texte, c'est vrai, problématique. Et on lui reprochera beaucoup en Roumanie cette version abrégée.
Il n'a jamais été aussi sollicité. Il y a des Roumains en Roumanie qui voudraient fêter ses 80 ans. Il répond que sa famille n'a jamais célébré les anniversaires. Les Roumains de Paris le voudraient de toutes leurs agapes, qu'il honore rarement. Est-ce à ce moment-là, alors que les appels et les fantômes le pressent, qu'il aurait décidé de ne plus écrire ?
Cioran est mort de la chute de Ceausescu. Il a perdu ses esprits. Parce qu'il a vécu à l'abri. Et tout d'un coup, l'histoire l'a emporté. C'est une théorie personnelle, mais je l'ai retrouvé dans les années 90. Il n'était plus lui-même. C'était un homme qui ne savait pas trop se défendre dans un grand mouvement. Et le fleuve de l'histoire l'a emporté.
Et comme il l'avait emporté en 35-40.
Oui, exactement. J'ai pas pensé à ce que vous dites, mais c'est vrai. Et une des dernières images que j'ai, moi je ne suis pas, j'ai pas osé aller le voir à l'hôpital, mais j'ai rencontré Simone Bouillet, donc, devant l'Odéon, et elle m'a dit, exaspérée, que l'État roumain dirigé par Iliescu avait proposé de payer les frais de l'hôpital. Et elle dit bien entendu que nous avons dit non, tout ça. C'était très émouvant. Son frère est venu.
Aurel
est venu le voir. Et il lui a dit, c'est émouvant, il a dit, tu sais que tu es Émile Cioran. Et Cioran a répondu, tout à fait énigmatique, il a été. Donc, on ne sait pas s'il parlait de lui-même, de quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. Tu sais que tu es Émile Cioran. Il dit, oui, il a été. Et ce qui est terrible aussi, c'est que ce que dit ma femme, c'est qu'à la fin, il ne parlait que le roumain.
Et l'enterrement à l'église orthodoxe roumaine à Paris en 1995.
C'était presque une cérémonie mondaine. Il faut dire que c'était assez cocasse, improbable aussi. Donc on était dans l'église roumaine qui se trouve en dessous du Collège de France, dans le quartier latin. Et c'était un jour de grande chaleur. Et la cérémonie a duré très longtemps, très religieuse, ce qui pouvait sembler quand même un peu curieux quand même. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de célébrités qui étaient là, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, qui tenait à se mettre au premier rang. Alors c'est toujours un spectacle dérisoire de voir des gens qui se battent pour être en vue à des enterrements, comme s'ils allaient eux-mêmes avoir une vedette quelconque. Et d'ailleurs, même la télévision était venue, il y avait TF1, c'est vous dire. Et alors l'apothéose, ça a été un message du roi Michel de Roumanie. Alors, d'une certaine manière, ça a quelque chose de touchant quand on considère que ce rang était un exilé apatride et que finalement le roi en exil de Roumanie reconnaissait ce que tout le monde pouvait reconnaître, à savoir le génie de cet homme. En même temps que ça avait quelque chose de déplacé, de trop ostentatoire, on aurait aimé plus de retenue. Et alors, oui, la dernière scène, effectivement, je me souviens, le cercueil est sorti, et donc il y avait une bande de clochards complètement avinés qui attendaient à l'extérieur de l'église, et dont un qui a commencé à quasiment à vomir, en fait, sur le cercueil, il faut bien dire, et en insultant tout le monde. Donc c'était une impression, évidemment, shakespearienne, de sommité, de gens importants, au milieu de ces clochards qui, eux, réglaient son compte assurant, mais de manière finalement plus suranesque que les autres.
De remerciements à Stéphane Barsac qu'on vient d'entendre, qui a publié sur Sioran un livre aux éditions du Seuil, et à Georges Banu. Les lectures Grégoire Roqueplot, la prise de son Éric Audrat et Yves Le Hors, à la maison de la radio et de la musique Victor Ouvrard, Frédéric Martin et Franck Olivard, les agents d'intelligence service, et la réalisation Audrey Ripouillon.